C'est le fameux mythe du retour.
J'ai découvert l'autre et je me suis aperçue que l'autre, c'est sacré.
Les paysages de la montagne, la mer, dont la manière de parler, la manière de danser, en forme de musique.
Pour casser cette barrière qui est entre nous, pour pouvoir faire la route.
J'en rêve.
Montagne cosmopolite.
أنا سميتي هشام أمقدوف، تزاديت في المغرب، جيت دمنات في 1973، جيت لفرنسا في 1999. Je m'appelle Hicham Amkdouf, Amekdouf, comme on dit ici. Je suis né au Maroc, à Demnet, vers le sud, pas loin de Marrakech, en 1973. Je suis venu en France en 1999.
Est-ce que tu peux nous parler du lieu de ton enfance ?
Il y a plusieurs lieux d'enfance. Il y a le lieu de naissance à Demnat, dont j'ai pas spécialement beaucoup de souvenirs. J'ai les souvenirs quand je suis revenu après. Mais voilà, je suis né en 73 et on a dû partir 2 ou 3 ans après. On est parti dans une ville qui s'appelle Boulman, dans les montagnes de l'Atlas. J'ai le souvenir de la neige, des portes bloquées par la neige, du froid, des maisons en tuiles comme ici. Après, on a continué à bouger à Tiefeld quelques années. Et sinon, on va dire le principal lieu d'enfance ou d'une partie de l'adolescence, c'est vraiment le foyer, on va dire, natal de mon père. Parce qu'à un certain moment, on est revenu pour habiter un peu pas loin de la tribu, on va dire. Voilà, et c'est là où on a continué à habiter, où moi j'ai continué à faire mes études jusqu'à la fin du lycée, où là je suis parti ailleurs.
Qu'est-ce qui a fait que tes parents se sont déplacés aussi souvent ?
Parce que mon père, il travaillait dans les centres agricoles, il était technicien agricole, et donc du coup, quasiment tous les 4 ans à peu près, il devait se déplacer, il devait bouger dans un autre coin. Et donc, du coup, nous, plus ou moins, on a suivi ce mouvement.
Donc, plutôt dans des territoires ruraux.
Assez, voilà. C'était soit des petites villes, mais plutôt, c'était plutôt rural. Et de toute façon, la naissance... que ce soit la naissance ou majoritairement les endroits dans lesquels j'ai vécu jusqu'à quasiment jusqu'à la fin du lycée, ouais, c'était des territoires ruraux. Et la majorité de ma famille, on va dire, que c'est milieu paysan, on va dire. Mon grand-père était paysan berger. Mon père, il a hérité de ça en partie, mais voilà, il a été plus un peu technicien agricole, donc ça a toujours resté dans un peu dans la ruralité et la paysannerie.
Et quand tu dis que vous avez rejoint le lieu où vivait ton grand-père, c'était où ça ?
C'est à Tahla. Et Tahla, c'est au nord-est, nord-est de Fès, à 80 km au nord-est du Fès. C'est un peu le centre-nord, on va dire, centre-nord du Maroc. C'est ce qu'on peut appeler, moi j'ai toujours appelé ça village. Un village parce que bon, il y avait, à part des maisons, il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait ni salle de sport, ni. C'est vraiment le minimum. Il y avait un lycée, des écoles, mais voilà. Au niveau infrastructure, il n'y avait rien du tout. On était rapidement, on était entouré de champs de fèves ou champs de blé, des choses comme ça. Et il y en a qui appellent ça petite ville. C'est qu'on pourrait l'appeler une petite ville parce que bon, il y a 30 000 habitants ou 40 000 habitants. Mais pour moi, j'ai toujours appelé ça village. Mais c'est beaucoup plus grand que dit. Enfin, c'est 10 fois plus grand que dit. Et ça, voilà. Ça possède pas, il n'y a pas de salle de cinéma, il n'y a pas de théâtre, il n'y a pas d'infrastructure de sport, il n'y a rien du tout. C'est la ruralité. Voilà. Donc nous, par exemple, l'été, quand les champs ils étaient moissonnés, donc on allait dans les champs, on posait et on faisait nos champs de. Ça devenait nos territoires de jeu, nos terrains de foot et tout ça. On mettait des cailloux et puis on traçait le terrain et l'été on jouait au foot. Et puis voilà, quand l'agriculture revenait, bah voilà.
Est-ce que tu avais des frères et sœurs?
On est cinq, une fratrie de cinq frères, cinq garçons. Et moi, je suis le troisième, je suis celui du milieu.
Et quand tu deviens adolescent dans une région comme ça, comment ça se passe l'adolescence?
Bah, l'adolescence, elle se passe entre le lycée, la maison et les copains, le sport. Pas plus. Enfin, il y avait pas de spécialement de médias, même en télé. À la télé, il y avait pas. Il y avait la télé marocaine de 6 h de 6 h du soir à minuit. Et donc nous on regardait un petit peu la télé, mais voilà, j'écoutais pas mal la radio, on écoutait pas mal la radio, on avait les cassettes un peu pour enregistrer des chansons, soit des chansons on va dire occidentales ou donc voilà, et on faisait beaucoup de sport. On faisait beaucoup de sport et puis chacun après avait son monde à lui. Moi, à certains moments, un peu à l'âge de 12 ans, c'est devenu rapidement l'écriture. Un vieux copain avec qui on est toujours en lien jusqu'à maintenant, c'était la peinture, le dessin. Et donc du coup, on échangeait autour de ça, on grandit autour de ça et puis voilà, on essaie de partager un petit peu, pas avec les parents, pas avec les adultes, mais on se partageait ça entre nous.
Elle est née comment ton envie d'écrire?
Alors, je ne sais pas du tout. Ce que je sais, c'est que j'ai le souvenir d'une sorte d'envie de lire à l'école primaire une je dirais pas une boulimie, mais une envie, un intérêt pour la lecture assez enfin, à l'époque, ça semblait particulier parce que c'était tellement. Il n'y avait pas beaucoup de livres d'ailleurs, ça aussi, il n'y avait pas. Là, je suis impressionné enfin, par la quantité de la provision de livres. Je vois mon fils, je vois Nassim, la chambre, elle est remplie de livres, il a déjà lu. Ou feuilleter, ou regarder des centaines et des centaines de livres. Il y a des livres partout, il y a des livres dans la rue. Enfin, on va dire que je lisais tout ce qui passait sous mes yeux, mais j'ai jamais, il y avait pas grand-chose.
Est-ce qu'il y en avait chez toi des livres?
Bah, on en achetait. Il y avait je me rappelle. Alors, il y avait une revue qui s'appelait Al-Watan Al-Arabi. Je crois que c'était une revue. Il y avait une revue pour adultes qui s'appelait Al-Watan Al-Arabi, le monde arabe, je crois. Et donc, ils avaient fait, je crois, une version pour enfants. Donc ça, j'arrivais à en acheter de temps en temps. Mais à la maison, non, pas particulièrement. C'était pas les parents n'achetaient pas spécialement des livres à lire pour leurs enfants. Et c'était pas la chose. Même moi, on va dire dans mon entourage, il n'y avait pas spécialement beaucoup d'enfants qui s'intéressaient à la lecture. Parce que d'un côté, il n'y avait pas beaucoup de propositions. Là, par exemple, en classe, il y avait une petite bibliothèque, mais vraiment qui prenait, qui faisait, je sais pas, le 1/10 de livres que peut avoir un enfant ici dans sa chambre. Et donc, du coup, moi, j'en prenais un ou deux. Des fois, on n'avait pas le droit d'en prendre plus. Donc, des fois, je rentrais pendant la récré en cachette pour en piquer un ou deux et pour les lire. Voilà.
Il n'y avait pas de bibliothèque municipale ?
Non, pas particulièrement. Dans certains endroits où j'ai vécu, il y en avait. L'accès, il était très limité. Enfin, voilà. On va dire le livre, il était, c'est quand même, ça restait un objet très rare. Mais moi, j'aimais beaucoup la lecture. Je sais pas pourquoi j'ai eu ça, parce que mon père ne m'ont pas spécialement incité à lire. Voilà. Donc j'ai commencé à lire au primaire. Donc je lisais beaucoup. Peut-être que c'est ça qui à un certain moment a donné plus autre chose probablement, a donné envie de d'écrire. Au collège, c'est la rencontre de certains profs, un ou deux particulièrement. Nous, on a connu une école, on va dire, très sévère. L'école sévère, l'école marocaine des années 80. Et donc, du coup, c'était une école assez rude. Donc voilà, il y avait ce côté-là où il n'y avait pas spécialement des choses ludiques, il n'y avait pas de musique, pas de peinture, pas de lecture, pas de... Voilà, donc tu rentres en classe, des profs, globalement, la majorité que j'ai connus, ils pratiquaient, on va dire, la punition physique, et ils avaient toujours le bâton sur la table. Enfin voilà, donc on allait à l'école un peu à reculons. Donc c'était l'école des années 80, c'est tout un système. Donc du coup l'enfant n'est pas qu'à l'école, on va dire, dans la rue.
Et en famille, il y avait cette sévérité aussi dans l'éducation ?
On va dire qu'il y avait une rigueur. Il y avait une rigueur, mais il y avait une ouverture. Enfin voilà, il y avait une certaine rigueur, mais voilà, comme tous les parents. Mais en tout cas, oui, on était peut-être, on était mieux à la maison que, c'est sûr qu'on était mieux à la maison qu'à l'école. Bon, à l'école, on avait les copains, on jouait et tout ça. Mais c'est vrai que dans les classes, il y avait la punition, on va dire, physique. On n'aimait pas beaucoup. C'était pour dire que on arrive au collège. Bon, ça commence légèrement à changer, mais il y avait encore des profs au collège qui avaient certaines pratiques. Donc, à un certain moment, il y avait un prof de français, je crois que c'était en deuxième année de collège, un prof de français, Selak Jawad, qui arrive dans notre collège, et je crois que c'était sa première année. Et donc là, c'était comme une révélation, en fait. C'était, ah oui, ça pouvait, ce type de prof pouvait exister. Il nous appelait par nos prénoms. Jusque-là, on nous appelait par nos noms de famille. Et donc lui, il nous appelait par nos prénoms. Donc déjà, c'était extraordinaire. Lui, il va nous ouvrir plusieurs portes et tout ça. Et donc, il nous fait découvrir aussi beaucoup de poésie.
Mmh. Mais la littérature, du coup, c'est à la fois la littérature d'arabe classique et le français en parallèle.
Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Donc ce prof, il nous fait découvrir les poètes, Rimbaud, Victor Hugo. Enfin, il essaie de... Il nous laisse libre de gérer nos classeurs comme on veut. On peut faire des illustrations, coller des choses. On crée des poèmes tous ensemble en classe. Donc voilà, il ouvre cette porte et par laquelle moi je suis rentré. Et puis voilà, je suis resté de ce côté-là, de ce côté-là de la porte.
Tahta al-qamar
أعدم بدقة الحيوان تحت القمر جنية فارسية تعمل بلا كلل تحت القمر حياتي كسرت جسدي.
Sous la lune, exécuté avec une précision animale. Sous la lune, une fée persane travaille sans relâche. Sous la lune, la vie a brisé le corps. Sous la lune, la morsure des clôtures chaque matin. Un personnage sur les nuages. Sous la lune, un cri épris de son écho. Des zones sombres entre les concepts. Une libellule d'or sur la main des secondes. Murmure des réfugiés entre les arbres. Sous la lune, les rivières se meurent. Cendres et insomnie, talisman pour sortir des ténèbres. Des mots qui cassent le sens, provoquent la foudre et les vagues. Sous la lune, le dernier ange de Jérusalem.
تحت القمر آخر ملائكة القدس. تحت القمر ورود سامة فراشات قاتلة باقة زهور غادرة رماد الحياة حرية الريح تحت القمر قلب ينبض وراء الحجاب كومة من الفواتير بين يدي الملاك.
Sous la lune, des fleurs vénéneuses, des papillons mortels, un bouquet de roses trompeuses, les cendres de la vie, la liberté du vent. Sous la lune, un cœur bat sous le voile, une pile de factures entre les mains de l'ange. Sous la lune, l'ombre des paupières sur les yeux, le reste n'est qu'un désert impitoyable.
Et comment est-ce que tu te représentais la France à l'époque ?
J'ai cette image. Pas spécialement la France au début, mais cette image de forêt, de verdure, d'eau qui coule, qui contrastait complètement avec nos quotidiens, parce que la région, Tsahla, la région où j'habitais, comme un peu une bonne partie du Maroc, quand il y a de la pluie, l'année où il y a de la pluie et tout ça, donc il y a de la verdure, il y a des champs et tout ça, on voit du vert et tout ça, mais il suffit qu'il y ait une année de sécheresse et tout ça pour que vraiment on ait cette impression un peu de désert. C'est l'été, ça, c'est du 40 degrés quand les champs ils sont moissonnés, donc on est entouré par la terre, la couleur de la terre, rouge, voilà, il fait chaud. Et donc, il y a cette vision un peu, je vois ces forêts, je vois les forêts, la verdure, l'eau qui coule et tout ça. Je me dis, ah, ça serait chouette, ce serait bien d'aller vivre là-bas. Et donc, du coup, plus tard, on va dire la France, elle se présente comme l'endroit, donc je découvre l'écriture, on va dire, je passe de l'écriture en arabe vers l'écriture en français. Je continue à écrire en arabe, mais je commence à écrire en français. Et plus j'écris en français, à un certain moment de ce processus d'écriture, il y a quelque chose qui se présente, c'est je suis en train d'écrire dans une langue, pas virtuelle, mais presque, parce que c'est pas la langue du quotidien. C'est une langue complètement, pas imaginaire, mais c'est une langue complètement décalée au quotidien. Le quotidien, c'est le dialectal ou le berbère ou l'arabe classique. Et donc, du coup, à un certain moment, il y a cette envie, au fait, d'aller vivre à l'endroit où on pratique cette langue au quotidien.
Tu le pratiquais en classe, le français ?
Le français en classe, des fois les films qu'on pouvait voir à la télé. Bon, après, à un certain moment, il y a le magnétoscope qui arrive. Et donc, du coup, là, on a un peu plus de possibilités de voir de films et tout ça. Mais effectivement, le français, c'était juste la langue, le français en classe. Le français qu'on pouvait avoir, le français des films. L'été, quand j'allais à Fès chez ma grand-mère, j'allais au cinéma. Donc voilà. Donc le français, c'est pas une langue pratiquée au quotidien. Moi, mes deux parents parlaient couramment, maîtrisaient le français parfaitement. Ils étaient trilingues, donc ils parlaient l'arabe, le berbère et le français. Mais voilà, on ne parlait pas français à la maison, donc c'est le marocain, on parlait le marocain normalement, normal quoi. Et donc du coup le français, après c'est ce qui donnait à ce moment-là, à une certaine période, l'intérêt de cette langue, c'est que c'était une langue, on va dire, pas réelle, donc c'était le coin, on va dire, de l'imaginaire un peu. Donc la réalité, c'était le dialectal marocain, l'arabe classique et tout ça. Et puis le coin immatériel, imaginaire, c'était le français. Mais à un certain moment, donc c'était pendant longtemps, c'était bien. Et puis à un certain moment, il y a eu vraiment, physiquement, cette envie d'aller à l'endroit où cette langue, donc ça, je l'ai eu assez tôt, c'était au lycée, on va dire, voilà, avant la fin du lycée. C'est une sensation assez physique, c'est une envie physique d'aller vivre. Vraiment, tu ressens ce besoin. Dans le processus, dans la suite, tu ressens ce besoin. Je l'ai pas ressenti en permanence, mais ça a été un ressenti dans une période particulière. Bon, après les choses vont évoluer, effectivement, à un certain moment, toujours à travers l'écriture. Le fil conducteur, je vais me retrouver ici. Au bout des études de fac, par l'écriture, il y a eu un concours, on va dire un concours d'écriture. Il y avait un prix, c'était un prix qui permettait de participer à une rencontre internationale. C'était en 99, une rencontre internationale de jeunes à Avignon. Et à l'époque aussi, moi, je faisais à la fac, je faisais du théâtre aussi. J'ai fait fac d'économie. Donc voilà, j'ai fait ma maîtrise j'avais commencé directement derrière pour revenir sur mes amours. J'avais commencé une fac de lettres. Voilà. Et c'est au bout. Et donc je pars quand j'ai mon DEUC de français. C'est à ce moment-là qu'il y a eu le prix pour la nouvelle en français. C'est cette participation qui était donnée par l'Institut français de Fès. C'est la participation au Festival d'Avignon, une rencontre internationale où il y avait des jeunes un peu de partout. Donc je suis parti. Et puis j'ai décidé de ne pas revenir. J'avais un visa d'un mois juste pour participer au Festival d'Avignon, 99. Mais j'ai dit au revoir à ma famille.
Toi, est-ce que tu avais pensé faire tes études en France?
Ça aurait pu être une possibilité. Ça aurait été complètement une possibilité différente parce que j'aurais pas fait mes 4 années de clandestinité, on va dire, de sans papier. Ça aurait été probablement différent et que probablement on serait pas là en train de discuter. Ça aurait été probablement être un parcours différent et que sûrement je serais pas là, je serais ailleurs. C'était pas évident d'arriver dans ce monde, on va dire, de sans papier, de clandestinité, de se cacher, mais c'était nécessaire, il le fallait. Je lui ai même trouvé un intérêt, on va dire, que je me disais, voilà, maintenant, tu as fait des études, oui, et tout ça, maintenant, c'est, voilà, tu écris, tu veux l'écrire, et ben, voilà, tu vas plonger dans ce monde, on va dire, entre guillemets, prolétaire, sans papier, et tout ça, ça va te donner de la matière, et tout ça. Bon, voilà, je me donnais du courage comme ça. Voilà, c'est une période où j'ai pas beaucoup écrit. Je continue un peu à écrire, à tenir un journal, d'essayer de faire des choses quand même. Mais c'était tellement intense et pris dans la survie, on va dire, du quotidien. Donc voilà, ça a duré, cette période-là, elle durait à peu près 4 ans.
Qu'est-ce qui s'est passé après ce festival à Avignon, le jour où ça a été terminé?
Et ben voilà, c'était quelque part dans ma tête. c'était tout tracé. J'avais quasiment déjà quand le j'avais quasiment plus de sous. J'avais un point de chute. Je savais que je pouvais pas. Enfin, je savais que la France était compliquée pour un sans-papier. Parce qu'au Maroc, on entend, on sait un peu comment, vu qu'il y a beaucoup d'immigrés, plein de gens, donc tu arrives à collecter un petit peu des informations, à savoir un peu. Donc je savais qu'en France, c'était compliqué. Je savais qu'aux Pays-Bas, à l'époque, en Hollande, c'était moins compliqué. Donc l'idée pour moi, c'était de dire, voilà, je vais faire mon festival, je vais prendre ça comme un moment, voilà, de... exceptionnel de voilà de détente, de découverte et tout ça, et c'était ça, c'était vraiment génial. Et après j'ai tracé, je suis remonté sur Paris voir des potes et des copains là-bas, et après je devais rejoindre des gens, des jeunes de mon village que j'ai connu qui vivaient en Hollande. Donc voilà, donc j'atterris en Hollande de cette manière, aux Pays-Bas. Et effectivement, c'était plus simple qu'en France, parce que là-bas, bon, y avait pas vraiment une pression, il n'y avait pas le contrôle, on va dire, il n'y avait pas les contrôles de faciès. Tu pouvais trouver du travail assez facilement. Du logement au black, comme on dit, même si tu n'avais pas de papier, tu pouvais avoir trouvé un appartement en colocation avec des personnes et tout ça. D'ailleurs, il y avait des appartements, des colocations, il n'y avait que des sans-papiers. Au black, voilà, c'était toujours ça. Et donc, du coup, c'est le plus important pour un sans-papier, c'était ça. C'est le logement. Et le travail, voilà. Parce que derrière, derrière, t'as personne. Et c'est pas comme, par exemple, un étudiant qui va venir du Maroc, il va s'installer, il aura la possibilité de travailler légalement. Il a cette possibilité. Il peut avoir, je sais pas, le logement. Ou bien c'est des gens qui peuvent l'aider. Donc alors qu'un, on va dire, un sans-papier, si tu es venu en Europe, le statut de sans-papier, c'est quoi? C'est, tu vas pas te faire aider par des parents ou des choses comme ça. Au contraire, c'est toi maintenant qui voilà. Et donc du coup la vie, on va dire, la vie hollandaise commence comme ça. En trouvant des boulots dans les serres, l'agriculture, les tomates, les poivrons, les orchidées, tout ça. Et donc un logement, et c'est là où quelque part je commence un peu à me poser en Europe et découvrir un peu ce monde assez, on va dire, assez rude, parce que voilà, c'est tes sans-papiers, tu vas avec les sans-papiers, tu pars le matin, il fait nuit, tu reviens le soir, il fait nuit, t'es fatigué, t'as pas le temps de découvrir, bon, après, plus tard, tu découvres, mais moi personnellement, j'étais concentré sur l'objectif, c'était de pouvoir travailler, habiter et après réfléchir comment avoir des papiers. Voilà, c'était ça l'objectif, parce que en Hollande, j'ai connu des personnes qui étaient là depuis 10 ans, qui n'avaient pas encore qui avaient toujours pas de papiers, donc qui sont partis de chez eux, et 10 ans après, ils n'étaient pas encore rentrés, quoi. C'est-à-dire la personne, elle est partie et elle a laissé son enfant qui a 6 ans dans les montagnes du Rif. Je dis les montagnes du Rif parce qu'en Hollande, il y a plein de gens qui viennent de cette région. Ça vient un peu partout du Maroc, mais c'est principalement des gens du Nord. Et que au moment où je faisais ma colocation avec cette personne, Sa fille, elle avait 18 ans passés, et même qu'elle se mariait. Enfin, et donc voilà, ça crée un peu des. Psychologiquement, c'est costaud, quoi, c'est dur. Et donc voilà, donc. Mais bien, bon, après, c'est quand on est dans un mode, quelque part, de survie, on a de la résilience, enfin, on percute assez rapidement. C'est assez intense, enfin, tu tombes pas malade, tu es très concentré, enfin, c'est du travail au black. C'est, je vais pas dire esclavage, mais c'est une forme un peu occidentale de l'esclavage. Moi, enfin, on va dire le regard sur ce qu'on appelle le capitalisme, moi, là, le capitalisme, pour moi, il se révèle d'une façon concrète, ses hypocrisies, tout ça. Pour moi, je le découvre là, comme ça, devant mes yeux, parce que le monsieur quand j'arrive à Den Haag, donc c'est la capitale politique, c'est à La Haye, c'est là où il y a le tribunal international. Donc la personne qui... alors comment ça se passe? Il y a l'équivalent des... On appelle ça en hollandais, si je me rappelle bien, Housing Bureau, et c'est les boîtes d'intérim. Donc les boîtes d'intérim, globalement, ils sont tenus par des Hollandais, voilà, tout ce qu'il y a de plus... de bien, on va dire, entre guillemets. Et donc, du coup, ces Hollandais, ils ont une interface, ils ont des sous-traitants, on va dire, des sous-traitants selon les communautés. Donc, ils ont un Marocain, par exemple, qui travaille avec eux. Ce Marocain-là, en l'occurrence, je ne me rappelle plus comment il s'appelait, et lui, il est né en Hollande, il a grandi en Hollande. Donc voilà. Donc lui, il a des jeunes marocains qu'il recrute et qu'il fait travailler pour la boîte d'intérim. Par exemple, la boîte d'intérim, il lui dit pour cette serre, j'ai besoin de 5. Pour celle-là, j'ai besoin de 3. Pour cette usine d'emballage de légumes, j'ai besoin de 3. Et donc, lui, il va dispatcher. Il a ses chauffeurs. Et donc, du coup, nous, je me rappelle à l'époque, on était payé 12 florins. Je ne sais pas, lui, combien il encaissait. Mais en tout cas c'était, il nous volait, on va dire.
C'est du black, mais ça passe quand même par des agences d'intérim.
Oui, alors oui, exactement. C'est du black avec des boîtes d'intérim organisées, réelles, de tout ce qu'il y a plus sous l'œil de tout le monde. Parce que, je me rappelle, nous, les matins, très tôt le matin, je ne sais pas, 6 heures du matin, des fois même avant, quand on sortait pour aller au boulot, à Den Haag, Den Haag, comme disent les Hollandais, sur le trottoir, mais il y avait des dizaines et des dizaines dans le quartier et dans tous les quartiers, enfin voilà, dans le coin où il y a une, on va dire, une grande concentration de sans-papiers, et ben sur le trottoir, on était tous là. Au vu de tout le monde, hein, on n'était pas cachés. On attendait les camions qui viennent nous entasser comme du bétail pour partir bosser. Mais voilà, c'était visible, hein, c'était pas. Et dans les serres où là on travaillait, on va dire c'est 95%, on était des sans-papiers. À part peut-être le chauffeur de voiture qui nous amenait, lui il avait ses papiers, voilà, pour parce qu'il fallait. Mais dans les serres où j'ai travaillé. La majorité des gens qui travaillaient, c'était des sans-papiers. À l'époque, il y avait même encore, à l'époque, c'était parce que c'était en 2000. Et donc, du coup, il y avait des Polonais, des Bulgares, des Somaliens, des Irakiens, des Marocains, des Tunisiens, des Algériens, enfin, un peu toutes les nationalités. Et je peux dire qu'une bonne partie des serres hollandaises, elle était fournie par du travail clandestin. Voilà, donc moi ça je l'ai vu, je l'ai vécu. Je l'ai vécu physiquement, ce rapport avec ce recruteur marocain qui me permet un peu, qui me donne cette image un peu du capitalisme, comment il fonctionne. C'est-à-dire que la première pointe du capitalisme qui va venir te piquer, eh ben, c'est une pointe de ta propre communauté. Et on dit, ah oui, quand même, le capitalisme, quand même, il est très fort, quoi. Il n'a pas de nationalité. Enfin, voilà, ça me donne cette image. Et voilà, ce monsieur-là, tu travaillais, toi, t'es clandestin, tu travailles 3-4 semaines, t'es pas payé, ou t'es sous-payé, ou il te vole des heures. Voilà, enfin, de la grande exploitation. Et tu peux rien réclamer. Ça te donne juste envie de mettre le feu à des choses. Mais bon, tu ne le fais pas parce que non plus, tu as envie de tracer ton chemin. Mais bon, en Hollande, à un certain moment, j'ai eu un travail où on va dire que ça a évolué. Et j'avais un boulot, on va dire, mais toujours sans papier et tout ça. Avec un autre gars qui était, lui, plutôt, voilà, bon, il était pareil, c'est un recruteur. Mais il n'était pas marocain, il était somalien, lui, s'appelait Moussa. Et lui, j'avais plutôt un bon rapport avec lui, on va dire que des fois, il me faisait même une petite prime, on va dire. Et là, je bossais plutôt dans une boîte qui fabriquait de construction de serres. Là, c'était plus intéressant. Bon, c'était toujours rude et voilà, mais c'était différent. Et donc, dans tout ça, la possibilité d'avoir des papiers, il est quasi nul, quoi. Et de toute façon, ils n'ont pas intérêt à donner des papiers à ces gens-là, parce que voilà, c'est de la force de travail docile, voilà, qui est là, présente, donnée à profusion, voilà, ils n'ont pas intérêt à donner des papiers à ces gens-là. Après, moi, à un certain moment, même si, on va dire, matériellement, j'avais une situation, j'avais une colocation dans un appartement, j'étais bien installé, je travaillais, j'avais un travail, même s'il n'y avait pas de contrat, mais il était durable, on va dire. À un certain moment, je voyais que si je reste en Hollande, je vais au bout de 10 ans, pareil, j'aurai pas de papier et tout ça. Et donc, à ce moment-là, j'apprends qu'en Espagne, ils font des régularisations massives. En Espagne, c'était différent. Sous certaines conditions, tu pouvais déposer un dossier en tant que sans papier, sur certaines conditions, pour régulariser ta situation. Donc j'apprends ça, et donc du coup je décide du jour au lendemain, sans prévenir personne, de tout quitter. Je prends mes petites économies et puis je pars en Espagne, dans la région de Barcelone, donc avec un contact. Des gens que mon frère connaissait, pareil, sans papier, et dans un village dans la région Castelterçol, qui s'appelait le village, Château du Soleil. Et donc j'arrive là-bas, et là je trouve assez rapidement du boulot dans une entreprise de construction de piscines. Le bâtiment, l'euro il arrive en 2002, là on est en 2001, et donc du coup il y avait beaucoup de boulot parce que tout l'argent l'argent noir, les gens le sortaient parce que voilà, l'euro allait arriver et cette monnaie là, allait être, les pesetas allaient être, et donc du coup ça tombait bien, il y avait du boulot, donc il y avait des gens qui construisaient des piscines un peu partout. Et donc du coup, je trouve du boulot dans cette boîte. C'était un petit village, donc j'habite dans une petite maison, avec en colocation, avec 2-3 personnes. je fais ce dossier de régularisation et je continue. Mais en fin de compte, quelques mois après, je vais repartir. Je repars de là-bas, je rentre en France. Parce que dans ce parcours-là, de ce déplacement entre France, Hollande et Espagne, j'avais rencontré une personne. Et donc du coup, à un certain moment, on décide que je rentre en France et qu'on se marie, et qu'on arrête ce cycle au fait. Voilà.
Donc elle était de quelle nationalité ?
Française.
D'accord.
Et c'est comme ça que moi je fais je boucle la boucle son papier. Et que j'ai pu avoir mes papiers. تحت القمر ظلال الجفون على العيون والباقي صحراء لا ترحم تحت القمر حساء مع الذئب.
Sous la lune, une soupe avec le loup. Sous la lune, l'excédent de la population est enterré avec son fusil. Sous la lune, les racines du vide au cœur de l'univers. La tête du général dans le ventre des mouches. Sous la lune, la valise de la vie, vide théorique infini. Sous la lune, bavardage, parole de plume dans la tempête. Sous la lune, le masque est un poète, le poids du masque selon la pierre. Sous la lune, les rêves meurent étouffés sous les masques. Sous la lune, mon pays, l'ego et le chantage, noyés dans le sang. Le vent des malédictions se lève, la fiancée du diable est aux anges.
Donc tu t'es marié en quelle année ?
En 2002. Donc ça, le mariage, il va durer quelques années. Le mariage, il a duré quelques années. Puis après, on s'est séparés. C'était un vrai mariage. Sauf qu'à un certain moment, voilà, on n'était plus sur la même longueur d'onde. Et puis moi, je suis resté à Lyon. J'ai vécu 7 ans. 7 ans à Lyon. En enchaînant les boulots un peu, grande surface, restauration, agriculture, gardiennage. Je voulais avoir mon esprit libre pour l'écriture, donc j'alternais un petit peu des périodes, on va dire, d'écriture et des périodes de travail, parce que bon, quand tu travailles, en général, le boulot, il est assez dur. Donc tu es un peu fatigué, tu es un peu pris, l'énergie, tout ça. Donc c'est pas évident de concilier les deux. Donc il y avait des périodes, il y avait en alternance, travail-écriture, poésie. L'écriture aussi, elle va donner naissance à autre chose. C'est-à-dire que il y avait un besoin à un certain moment, je disais tout à l'heure que quand j'étais au Maroc, au lycée, il y avait cette envie de vivre, du coup, la langue d'écriture. Et là, il y a un nouveau besoin qui apparaît, c'est de vivre l'écriture elle-même, c'est-à-dire que de vivre la poésie, c'est-à-dire la poésie qui est sur le papier, qui est dans son coin, dans son château, et ben là, il y avait cette envie de la rendre vivante et de la pratiquer dans la rue. Et donc, quelque part, je découvre l'improvisation, la poésie improvisée. Je rencontre des musiciens dans la rue. Et là, c'est parti pour un cycle de quelques années de vagabondage poétique, musical, dans les rues de Lyon. On passait des nuits à improviser des poésies, à chanter, à rencontrer des musiciens. Et puis l'écriture, elle continue aussi un petit peu. Le théâtre, l'écriture de théâtre, des rencontres. Et ben voilà, jusqu'en 2009. Et j'atterris à Die. avec Sandrine d'ailleurs, on part de Lyon ensemble. Je connaissais un peu avant parce que Julien qui habite ici à Die, c'est le musicien principalement avec qui je découvre l'improvisation et avec qui j'ai fait ça pendant quelques années à Lyon. Et donc on venait de temps en temps ici à Die. Et quand il a fallu partir, moi à un certain moment je voulais rentrer au Maroc. Voilà, c'était ça aussi. Je voulais repartir, je voulais rentrer chez moi en fait. C'est le fameux mythe du retour. Il y en a qui ont vécu avec ce mythe-là toute leur vie, ils l'ont gardé, entretenu, mais en fin de compte, ils ne sont jamais revenus. Mais il est là en fait, ce retour. Et moi, à cette période-là, j'avais envie de rentrer, quoi. J'avais envie de revenir là-bas, me réinstaller, sauf que c'est compliqué parce que c'est soit il faut avoir un projet, soit tu as des sous pour ouvrir un truc là-bas. Moi, j'avais ni l'un ni l'autre, et principalement la poésie, mais voilà, ça ne nourrit pas son bonhomme. Enfin, voilà, les conditions, elles n'étaient pas propices. Il y avait aussi cette envie de revenir parce que j'avais envie de revenir à la terre aussi. Donc je crois que l'enfance rurale, paysanne, elle était là toujours. Et donc du coup, on s'est dit, bon, on va partir de Lyon, on va partir à Die, juste pour un petit moment, histoire juste vraiment d'enclencher le départ, et on verra après. Et donc, effectivement, j'arrive à Die, et c'est là où je découvre une autre facette, on va dire, de la France. Et nous qui étions venus juste pour quelques temps, on se retrouve à rallonger. Je trouve un bout de terrain à cultiver. On trouve rapidement une petite maison. Puis un autre fils qui naît. Donc notre fils, c'est un Diwa. Même si il y a certaines théories qu'on dit on est en Diwa, c'est quand il y a trois générations au cimetière. Et donc du coup c'est un Diwa. Donc c'est une petite ville sympa pour élever un enfant. Du coup en fin de compte le retour au Maroc il s'estompe parce que la terre que je cherchais je la trouve ici. On n'est plus reparti de Die jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, je retrouve plein de choses de mon pays natal dans le sud. L'été, par exemple, quand je vais me balader, il y a des odeurs, et c'est les odeurs de ma région maternelle dans le sud, là où je suis né. C'est un endroit où je me suis vraiment posé. J'arrive à Die en 2009, je suis parti en 99 et l'atterrissage vraiment réel, on va dire, dans l'exil, il se fait à Die.